Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la petite cuillère sur Radio Canu. On a eu un petit problème de CD, donc on n'aura pas entendu le générique de début. Mais on espère que tout se passera bien pour la suite de l'émission. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de prisonniers politiques, de Patxi Ruiz et de Georges Ibrahim Abdallah. On va ensuite parler de la reprise des parloirs. On parlera du texte de Gwenola Ricardo qui nous dit que le confinement n'est pas une incarcération. On lira ensuite la lettre ouverte à Macron au sujet de la surpopulation carcérale. On parlera ensuite d'une plainte qui a été... doivent faire les détenus contre les conditions d'incarcération pendant le confinement. On lira des témoignages de personnes qui sont enfermées dans des CRA. Et enfin, on écoutera le quatrième épisode de Parloir sur Henri Allègue. Et donc, La Petite Cuillère, c'est l'émission contre toutes les prisons. Premier jeudi et troisième jeudi de chaque mois, de 20h à 21h. Si vous voulez aussi nous laisser des témoignages ou contacter vos proches, leur laisser un message, c'est aussi possible. On a un répondeur, c'est possible de nous contacter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il suffit de nous laisser un message au 07 81 35 93 71. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à lapetitecuillere@riseup.net ou encore nous écrire à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandan, 69001, Lyon. Et tout de suite, on écoute la petite chronique sur les prisonniers politiques.
Et maintenant, on va parler de Patxi Ruiz, qui est un prisonnier politique basque qui est enfermé à Murcie, en Espagne, depuis 30 ans, et qui, depuis le 11 mai, est en grève de la faim, et il était même en grève de la soif jusqu'au vendredi 22 mai. Du coup, il est à la tôle de Murcie 2, c'est un dispositif pénitentiaire de grade 1, donc ça veut dire que c'est le plus dur et le plus restrictif en matière de détention. Et il a été accusé par l'AP d'avoir organisé un mouvement de rébellion des prisonniers-prisonnières au sein de la tôle contre la dégradation des conditions d'enfermement pendant le Covid. Du coup, au cours de cette rébellion, il a été blessé, mais il n'a reçu aucune assistance médicale et il a été menacé de mort par des matons. Et depuis la paix, ils l'ont foutu en cellule d'isolement jusqu'au 9 juin. Et du coup, ça l'empêche de recevoir des visites de son avocat ou même de son médecin. Du coup, il y a eu pas mal de mobilisations au Pays Basque depuis le premier jour de sa grève pour le soutenir. Et avec des manifs organisées tous les jours. Il y a certaines qui ont été interdites et réprimées, comme à Pamplune. Il y a aussi d'autres prisonniers-prisonnières basques qui sont enfermés en Espagne et qui se mobilisent de plein de façons. Et le samedi 30 mai dernier, c'était la date de mobilisation nationale pour visibiliser et dénoncer la situation. Il y a eu des manifs à Bayonne, à Bilbao, à Saint-Sébastien. Et du coup, Patxi Ruiz, il a réussi à envoyer une lettre au mouvement pour l'amnistie, la liberté et contre la répression. C'est un collectif qui milite pour l'amnistie des prisonniers-prisonnières politiques basques. Et dedans, il dit que la grève, c'est pour... dénoncer tous les mauvais traitements qu'il a reçus depuis de nombreuses années dans la prison de Murcie 2, d'exiger que l'administration reconnaisse ces mauvais traitements et que soit garantie son intégrité physique, pour dénoncer le comportement de la direction, du médecin et des fonctionnaires de prison et demander la suspension des coups, insultes et humiliations, d'affirmer clairement que sa lutte est politique et demander pour qu'il reste en vie, qu'il soit transféré dans une prison au Pays Basque ainsi que l'ensemble des prisonniers-prisonnières politiques basques. Pour demander que tous les prisonniers-prisonnières politiques extérieurs au Pays Basque soient rapprochés de leur lieu de résidence et pour affirmer son soutien à tous les prisonniers-prisonnières politiques basques et à celles qui continuent de lutter pour les idéaux pour lesquels ils ont été enfermés. Du coup, ça me donne envie de vous parler de Georges Ibrahim Abdallah. Aussi parce qu'il y a une lettre qui est parue le 3 mai 2020, qui a été signée par plein de collectifs, dont le collectif 69 de soutien au peuple palestinien, la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah, Case Rebelle, enfin voilà, il y en a plein d'autres. Et voilà, qui raconte que Georges Ibrahim Abdallah, il est toujours en tôle, malgré les trucs du Covid et tout ça, où il y a eu plein de libérations. Du coup, je vais vous lire la lettre. Chers amis, chers camarades, le 25 mars 2020, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, annonçait que la décision était prise avec le gouvernement, au vu de la crise sanitaire engendrée par la pandémie, de libérer de façon anticipée plusieurs milliers de détenus en fin de peine. Depuis lors, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour exiger une fois de plus la libération de Georges Abdallah. On ne compte plus les lettres adressées en ce sens à la garde des Sceaux par les collectifs et les organisations de soutien, sur le plan national et international, mais aussi les interpellations formulées par des députés de plus en plus acteurs et actifs dans ce combat. Pour autant, force est de constater aujourd'hui, cette fois encore, et ce malgré le contexte très exceptionnel de la menace grandissante et de l'urgence d'agir, qu'une fin de non-recevoir est là encore exprimée à travers le silence assourdissant et criminel de ce pouvoir politique et judiciaire pleinement responsable et coupable d'exposer Georges Abdallah au risque du coronavirus. Cette fois encore, semble-t-il, pas question de libérer Abdallah. Pas question de libérer Georges Abdallah, dont, plus maintenant, plus de 21 ans, la demande de libération n'est pas recevable. Pas question de libérer Abdallah, alors que Georges Abdallah a vu sa peine de sûreté accomplie en 99 et qu'il est libérable depuis plus de 20 ans. Pas question de libérer Abdallah alors qu'en 2012, le tribunal d'application des peines a donné un avis favorable à sa libération et que depuis lors, le Liban, son pays, a réaffirmé à maintes reprises son accord pour son retour. Pas question de libérer Abdallah alors que Georges Abdallah, âgé de 69 ans, est aujourd'hui l'un des plus anciens prisonniers politiques en Europe après 36 ans de captivité. Et pour autant, s'il est bien un état d'urgence qu'il faut décréter aujourd'hui, c'est bien celui de libérer Georges Abdallah. Face à ce déni encore réitéré par le pouvoir en place de la légitime libération de Georges, nous, signataires de ce texte, exigeons une fois de plus la libération de ce résistant et appelons à accentuer la pression pour imposer le rapport de force qui seul fera plier ses donneurs d'ordre. Comme le signalait déjà en toute clairvoyance Georges Abdallah quand, en octobre 2019, il déclarait déjà « Il ne suffit pas que l'État du Liban demande ma libération. Encore faut-il établir un rapport de force réellement existant pour faire comprendre aux représentants de l'impérialisme français que mon incarcération commence à peser plus lourd que les possibles menaces inhérentes à ma libération. Faisons entendre le plus largement possible, chaque jour et de partout, le cri de... Faisons entendre le plus largement possible, chaque jour et partout, le cri de Georges Abdallah et avec lui de tous les prisonniers prisonnières politiques et multipliant toutes les initiatives dans la diversité de nos expressions pour exiger sa libération immédiate ici et maintenant. Que 1000 initiatives fleurissent, c'est ensemble et seulement ensemble que nous vaincrons. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Georges Ibrahim Abdallah, peut-être je pourrais faire un gros topo à la prochaine émission, c'est que là je manque de temps mais j'aimerais bien faire un truc un peu plus détaillé pour qu'on comprenne bien tous les enjeux, parce que c'est une histoire vraiment, moi je trouve, incroyable. Et aussi, c'est pour dire qu'à la petite cuillère, oui, on utilise ce truc de prisonnier politique, et en même temps, on trouve que toutes les prisonniers et prisonnières sont politiques, parce qu'ils sont enfermés par un système, et que tout ça, c'est politique, en fait.
On est de retour en studio et est-ce que tu m'entends? Normalement on a quelqu'un au téléphone là.
Oui, bonjour.
Ah bonjour. Donc je t'ai téléphoné ce soir parce que tu as ton fils qui est en prison actuellement. Et du coup, si ça te va, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé la reprise des parloirs. Déjà, comment est-ce que tu as su que c'était possible de retourner au parloir?
Quand j'ai voulu prendre un parloir, donc on m'avait dit que c'était pas possible, pas avant le 11 mai. Du coup, j'ai attendu jusqu'au 11 mai, et donc du coup, je les ai rappelés un peu le 11 mai en voulant prendre un rendez-vous. Et du coup, ils m'ont dit que c'était possible de prendre un rendez-vous, mais qu'il fallait que je porte un masque. qu'il fallait qu'en fait qu'on soit qu'une seule personne qui aille au parloir pour il a droit à un parloir par semaine et interdiction d'amener du linge propre.
D'accord. Et du coup, t'as réussi quand même à avoir un parloir alors?
Oui, j'ai réussi à avoir un parloir, mais on l'a pas eu dans les box. En fait, on l'a eu à l'intérieur de la prison, dans leur gymnase.
Et même, tu m'as dit que juste avant de rentrer au parloir, on t'a fait signer un papier.
Oui. En fait, comment ça se passe, je vais vous expliquer. Donc, du coup, on arrive devant la prison et on n'attend pas dans le local de famille. Parce que c'est fermé. Du coup, ils ont mis des barrières à l'extérieur de la prison et avec des marquages au sol de 1 mètre à chaque fois. Et donc, il faut venir donc une demi-heure avant l'heure du rendez-vous. Et dès qu'on arrive donc et que les matons arrivent au moment où il faut qu'ils viennent nous chercher. Et du coup, ils vérifient bien qu'on ait un masque. Donc on a notre masque. Et du coup, on les suit tout le long. Et donc, on n'attend plus dans une pièce. Avant, on attendait dans une pièce le temps qu'ils viennent nous chercher, pour aller, le temps qu'ils vont chercher la personne qu'on doit aller voir. Et là, non, en fait, on va directement à l'endroit où on doit aller voir notre enfant. Mais en fait, juste avant, ils nous disent, on s'arrête à un endroit, en fait, au milieu de chemin, en fait. Et il y a des tables, et puis il y a des papiers dessus, et avec un stylo, et du gel hydro pour les mains. Et du coup, on lit le papier. Sur le papier, il y a écrit comme quoi, est-ce qu'on est malade, est-ce qu'on est atteint du Covid? On dit non. Est-ce qu'on a été en contact avec une personne qui a atteint du Covid? On dit non. Est-ce qu'on tousse? Non. Est-ce qu'on a fait des tests? Non. Et puis après, on signe. Et après avoir signé, on pose le stylo et eux, ils passent le gel sur le stylo. Ils le nettoient avec des lingettes. Et nous, on doit reprendre du gel dans les mains et après, on les suit tout le long en mettant bien le masque. Et arrivé là-bas, donc du coup, on attend. En fait, c'est dans le gymnase. Ils ont mis des tables. En fait, à ma première visite, moi, c'était des simples tables. En fait, ils avaient mis deux tables, l'une à côté de l'autre, mais l'une face à l'autre. Et interdiction de toucher la personne qu'on vient voir. On n'a pas le droit de l'embrasser, on n'a pas le droit de faire taper la bise, rien du tout. Aucun contact, sinon on a interdit de parler pendant 3 mois. Du coup, on parle, mais avec le masque, c'est difficile de s'entendre parce que, on n'entend rien. Du coup, mon fils, il a enlevé son masque pour pouvoir me parler, pour que je puisse entendre, parce que je n'entendais pas du tout. Et il y a un maton qui est venu lui dire « Remets ton masque, s'il te plaît ». Donc, du coup, il a remis son masque. Et du coup, on a dû parler tout le long comme ça, en fait. Et les matons, ils étaient en réunion. Ils étaient tous ensemble, à peu près, il y avait une dizaine de matons à une table un peu plus loin et qui me surveillaient.
Et à l'entrée, qu'est-ce qui se passe si jamais tu n'as pas de masque?
Comme moi, la première fois où j'y suis allée, ils avaient fait rentrer une personne, ils n'avaient pas contrôlé s'il avait son masque ou quoi que ce soit. Et donc, dès qu'on est arrivé à l'endroit où on doit signer le papier, comme quoi on n'a pas le Covid, dès qu'on a signé le papier, en fait, donc ils disent « mettez vos masques ». Donc moi, je l'avais déjà depuis le début. Et on était que 3 personnes. Et la personne a dit j'ai pas de masque. Le matin, il lui a dit il va falloir que tu sortes, je vais te raccompagner à la sortie. Et lui, il lui a dit je mets ma veste autour de ma bouche. Il lui a dit non, il faut vraiment absolument un masque. Du coup, ils l'ont raccompagné dehors. Moi, j'avais proposé j'avais une écharpe en plus de mon masque et j'avais proposé mon écharpe, ils ont refusé. Du coup, il a dû sortir. Et le temps qu'il accompagne, nous, on a dû attendre que le maton accompagne la personne qui sorte et après qu'il revienne pour qu'on puisse aller au parloir. Du coup, on a perdu à peu près 15 minutes de parloir.
Et oui, c'est ça, c'est qu'eux, ils n'avaient même pas des masques pour dépanner pour les gens qui n'en ont pas. C'est si tu ne viens pas avec, tu ne rentres pas.
Non, du tout.
Et pareil, si tu ne signes pas le papier, si tu refuses ou si tu ne coches pas non à une des cases, ils estiment qu'ils peuvent te refuser là-dessus.
Voilà, oui. Si on ne signe pas le papier ou qu'on ne le complète pas, ils refusent parce qu'ils ont bien contrôlé si, si on avait bien marqué, coché toutes les cases qu'il fallait. Il y avait une dame qui n'avait rien coché, en fait, elle avait juste signé, et puis le matin lui a dit non, non, il faut vraiment que vous, vous lisez le papier, que vous, vous cochez les cases. Elle lui a dit, mais moi, je vois rien du tout sur vos papiers. En fait, c'était vraiment écrit d'un gris vraiment pâle. Et du coup, c'est vrai qu'on ne voyait pas bien, et moi, j'ai juste coché en lisant rapidement. Mmh. Mais la personne était obligée de lever la feuille, la mettre à la lumière pour pouvoir voir ce qu'elle signait, en fait. Ce qu'elle devait cocher, ne pas cocher. Et donc, voilà.
Et comment c'était ce premier parloir, alors dans ces conditions un peu particulières?
Eh bien, quand je suis arrivée, mon fils il m'a dit qu'il ne voulait absolument pas que je vienne, parce qu'en fait, comme on doit traverser toute la prison, il y a des détenus qui nous regardent tout le long et qui se mettent à hurler, en fait, ou siffler. Et du coup, mon fils, c'est ce qu'il ne supportait pas, parce qu'eux, ils attendaient à l'extérieur. Et ils nous voyaient, en fait, face à une vitre, ils nous voyaient. Mmh. Et ils voyaient les autres personnes... siffler. Donc du coup, eh ben, il m'a dit, maman, si tu viens et qu'il faut traverser la prison, je préfère mieux que tu viennes pas parce que ça m'énerve quand on manque de respect comme ça. Je lui ai dit, ben, de pas faire attention. Il m'a dit, non, non, mais moi, j'aime pas.
Okay. Et du coup, tu es pas retournée alors depuis?
Eh ben, depuis, je ne suis pas retournée, mais c'est son père qui allait à ma place.
D'accord.
Et du coup, eh ben, quand ils y allaient, ils avaient rajouté au niveau des deux tables collées, ils avaient rajouté un plexiglas. Du coup, son père ne l'entendait pas du tout, en fait.
Oui, parce que ça coupe encore plus le son. Oui, c'est
voilà,
en plus des masques.
Du coup, ils étaient obligés de hurler. Mon fils a encore enlevé son masque. Et ben, le matin, on lui a dit, il faut absolument que vous mettez votre masque. Et du coup, et ben, ils étaient obligés de crier pour pouvoir s'entendre, en fait.
Et combien de temps, enfin, on vous a dit combien de temps ça allait durer, des conditions comme ça de parloir?
Eh ben, ils nous ont pas dit, mais moi, je sais que quand j'avais appelé la semaine dernière, j'avais demandé quand est-ce qu'on pouvait amener au moins du linge, parce que vu que le linge, ben, c'est eux qui le lavaient, il n'y avait pas de machine disponible. C'était dur d'avoir une machine à laver. Du coup, mon fils s'amusait à laver son linge dans une bassine dans sa chambre. Ouais. Mais comme il est avec un détenu assez difficile, qui ne supporte pas qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe au sol, du coup, eh ben, il avait du mal à laver ses vêtements.
Ok.
Et du coup, eh ben là, j'ai appelé cette semaine, j'ai appelé ce matin pour demander un parloir pour ce samedi-là. Et du coup, ils m'ont annoncé comme quoi maintenant le masque est toujours obligatoire, il va falloir toujours signer ce papier, il va falloir toujours se mettre du gel avant d'aller dans la prison. Et par contre, on a les parloirs dans le box et on peut amener du linge propre. Mais qu'ils ne lui donnent pas tout de suite le linge. Il faut qu'ils attendent une semaine avant de lui donner, le temps que en fait, les microbes s'enlèvent, je pense. Ils vont les laisser dans un endroit noir, je pense. Et ils vont lui donner une semaine après.
D'accord. Oui, donc ce sera peut-être en tout cas un petit peu plus agréable. Enfin, agréable, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être un peu plus simple pour se parler.
Oui, voilà. Non, non, du tout, parce qu'en fait, on va être dans les box, mais il y aura toujours... elle m'a dit qu'il y aura toujours le plexiglas, les tables... Et qu'on aura toujours l'interdiction de se toucher, en fait,
ah oui.
De se dire bonjour ou quoi que ce soit.
D'accord.
Donc ce samedi, ça va être la grosse découverte.
Oui, puis du coup, ça va être un peu aussi très très frustrant, après 2 mois ou 3 mois sans avoir pu aller le voir. Et là, maintenant, bah, d'avoir des conditions comme ça où c'est pas possible de le toucher, c'est pas possible de se parler correctement.
Oui.
Ouais.
C'est vrai que c'est vraiment difficile. Moi, comme je lui ai dit, quand ils m'ont dit c'est interdiction de le toucher, parce que sinon, ils m'ont dit interdiction au contact, parce que si vous touchez, c'est interdiction de parloir pendant 3 mois. Et je lui ai dit, mais ça va être difficile. Il m'a dit, vous vous retenez. Vous n'avez pas le choix.
Ouais.
Donc voilà.
Ok. Bon.
Ouais.
Et ben, merci.
De rien.
Pour ton témoignage. Et puis, je te souhaite une bonne soirée.
Merci à toi aussi.
Salut.
Et merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui essaient d'avoir des informations sur les détenus, leurs conditions de vie et d'être solidaires aussi à leur... malgré qu'ils ont peut-être fait une bêtise, mais il faut au moins être solidaires. Je sais que je m'étale un peu du sujet, mais... être solidaire au niveau des détenus, parce que c'est vraiment déjà pas facile pour eux d'être enfermés. Et de voir sa famille derrière un plexiglas, c'est déjà encore plus dur pour eux.
Et est-ce que tu veux faire une dédicace d'ailleurs?
Enfin, une dédicace?
Non, ou pas plus, ouais. Non, peut-être que tu as déjà tout dit ce que tu voulais dire.
Voilà, oui.
Ok. Eh bien, merci. Et à bientôt.
À bientôt, oui. Et merci.
De rien. Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Au début du mois de mai, Gwenola Ricordo a publié un article qui s'intitule « Confinement et prison, une comparaison qui masque les réalités de la détention ». Gwenola Ricordo en a déjà parlé, c'est une chercheuse en sciences sociales, c'est aussi une militante pour l'abolition du système pénal, et on l'avait entendu dans cette émission, notamment dans deux émissions communes avec Lilith Martin et les autres, où elle présentait son livre « Pour elle toute » sur les liens entre les luttes abolitionnistes et les luttes féministes. Et donc dans cet article, elle revient sur les comparaisons et les témoignages qu'on a entendus ces derniers temps, à propos des différentes formes et expériences de confinement, que ce soit les marins, les religieux, les astronautes. Et elle note aussi que, je cite, « les prisonniers et prisonnières ne semblent pas compter parmi les voix dignes d'être entendues, malgré leur expertise sur le sujet ». Elle cite par exemple Keith Lamar, l'un des 5 prisonniers condamnés à mort après la mutinerie de la prison de Lucasville dans l'Ohio en 1993, qui a été sollicité pour donner ses conseils afin de surmonter des mesures de distanciation sociale. Il est bien placé pour en parler puisque son exécution est prévue pour 2023. Il a déjà passé 27 ans dans un quartier d'isolement et il n'a pas pu prendre sa famille dans ses bras depuis 18 ans. Et puis plus généralement, je cite à nouveau, « lorsqu'ils évoquent l'enfermement, les prisonniers et prisonnières recommandent généralement d'établir une routine, de veiller à son hygiène et à la propreté de son environnement, d'avoir autant que possible des activités physiques, intellectuelles et créatives et d'entretenir ses liens avec ses proches, mais aussi de questionner ce qui nous arrive. » Gwenola Ricordo, elle interroge aussi la comparaison entre le confinement et l'incarcération. Le modèle historique de la prison, tel qu'elle se développe à partir du 19e siècle en Europe et en Amérique du Nord, c'est comme le monastère avec les cellules individuelles qui isolent le détenu de la société et parfois des autres détenus. Et donc c'est le régime dit pennsylvanien, du pénitentiaire construit en Pennsylvanie au 19e siècle, qui prévoit le silence absolu et l'isolement strict et permanent. Et puis c'est la marionisation, les régimes d'isolement qui s'inspirent de l'unité de contrôle qui a été mise en place en 1973 à la prison de Marion, dans l'Illinois, et qui se généralisent dans les années 70 avec par exemple en France les quartiers de haute sécurité qui sont devenus ensuite les quartiers d'isolement. L'histoire des prisons est marquée par différents régimes d'incarcération, notamment, mais pas uniquement l'isolement. Et aujourd'hui, les prisonniers et prisonnières se trouvent parfois en régime d'isolement, mais, je cite à nouveau Gwenola Ricordo, la plupart connaissent moins les affres de la solitude que les problèmes que pose le fait de ne jamais être seul. La prison est loin d'être un lieu de confinement, d'où le risque particulier que fait peser l'épidémie de Covid-19 sur les prisonniers. La sociologie carcérale décrit des expériences de l'enfermement que vivent les prisonniers et prisonnières, notamment ce que Donald Clemmer a appelé la « prisonisation », la prisonisation, le processus par lequel des individus intègrent leurs conditions avec différentes phases d'acceptation et d'apprentissage des normes et des règles de la prison, et aussi de leurs transgressions et des punitions qui peuvent survenir. La sociologie carcérale, elle analyse aussi en particulier les expériences du temps et de l'espace que vivent les prisonniers et prisonnières, contraintes par le rythme de l'institution, comme les attestations de déplacement pendant le confinement. Le temps est souvent vécu comme monotone et répétitif, les mouvements sont ralentis par leur soumission à des autorisations et leur encadrement par des procédures. Et je cite, « malgré qu'ils disposent de tout leur temps, sauf s'ils travaillent, mais parce que le temps s'écoule plus lentement, les prisonniers et prisonnières se disent débordés et se plaignent parfois de n'avoir le temps de rien. En prison, on oppose dedans à dehors, comme on compare avec l'épidémie, maintenant à avant et à après. Mais la date à laquelle on se retrouvera dehors est souvent incertaine, et surtout il n'est pas sûr que « après » ressemble à « avant ». Certains pensent leur sortie comme l'occasion d'une vie meilleure que celle qui les a menés en prison, quand d'autres imaginent leurs difficultés s'aggraver à leur sortie. Pour certains, le temps à passer en prison est une parenthèse, du temps perdu. Pour d'autres, ce temps peut être rationalisé et mis à profit. Dans l'article, Gwenola Ricordo décrit aussi l'économie de la rareté, ce qu'elle appelle l'économie de la rareté qui règne en prison. Les produits habituels ne sont pas toujours disponibles, ils doivent être réparés, récupérés, échangés. Et donc cantiner, c'est un objet de préoccupation pour beaucoup des prisonniers et prisonnières. Les activités deviennent occupationnelles, les tâches domestiques peuvent devenir obsessionnelles, et la communication avec l'extérieur est contrainte au parloir, au téléphone, dans le courrier, ce qui peut rendre les échanges superficiels et difficiles sur le long terme. Les recherches analysent les manifestations psychosomatiques de l'enfermement, donc les effets sur le corps des détenus, les éruptions cutanées, le blanchiment des cheveux, l'arrêt des menstruations à l'entrée en prison, puis une perte de l'acuité visuelle, des conséquences de la sédentarisation et de la nourriture sur le système digestif. Elle montre la vulnérabilité des prisonniers et prisonnières en matière de santé, à cause notamment des problèmes d'accès aux soins. Elle décrit aussi les effets psychologiques de l'enfermement, comme les effets anxiogènes, les inquiétudes qu'on ressent pour soi ou pour ses proches, avec des privations sensorielles graves et des effets proches du stress post-traumatique. Et dans cet article, enfin, Gwenola Ricordo revient sur cette comparaison entre confinement et incarcération, et je la cite, « Le confinement et l'incarcération ont forcément des traits communs. Pour autant, la comparaison est hasardeuse au regard de l'extrême sévérité de certains régimes de détention. En fait, l'expérience du confinement se rapproche plutôt de celle de l'assignation en résidence, même si la nature de l'expérience est profondément influencée par sa durée. L'expérience de la réclusion diffère selon qu'elle est subie, contrainte, consentie ou volontaire, comme l'isolement diffère de la solitude choisie. Si aujourd'hui des personnes confinées accèdent, à travers l'expérience de la réclusion, à la compréhension de certains aspects de la peine d'incarcération ou de certaines situations de handicap, la comparaison entre les deux, lorsqu'elle est formulée par les plus privilégiés de ceux et celles qui sont confinés, heurte de nombreuses sensibilités, dont celles des personnes qui ont été incarcérées. En effet, dans certaines bouches, la comparaison du confinement à l'incarcération semble s'accompagner d'un aveuglement aux profondes inégalités parmi les situations de confinement et qui résultent des ressources financières, matérielles ou sociales qui permettent ou non d'avoir accès à un logement, voire à une résidence secondaire, d'imprimer une attestation de déplacement, de se faire livrer des courses à domicile, etc. Or, la sociologie de la prison nous apprend justement comment la classe sociale, la race, le genre, mais aussi l'âge, et l'orientation sexuelle, notamment, façonne les expériences de l'incarcération. Et on peut retrouver cet article en intégralité sur le site theconversation.com. En mars, 31 personnes détenues se sont associées pour dénoncer les conditions sanitaires auxquelles elles ont été confrontées au cours de cette crise sanitaire de la Covid-19, et elles ont déposé ensemble une plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en péril. Bon, bah d'abord, cette mise en danger était déjà présente dans les prisons françaises bien avant la Covid-19, puisque quand on entasse des individus dans des cellules de 9 mètres carrés et quand on empêche de garantir des conditions de vie saines, ça facilite la propagation des maladies. Donc la crise actuelle n'a fait qu'exacerber un problème qui existait déjà avant. Mais en plus, impossible pour les prisonniers et prisonnières d'appliquer les gestes barrières, puisqu'en prison, il n'y a pas eu de distribution ni de masques ni de gel hydroalcoolique. Et les perloirs sont interdits pour garder le coronavirus hors des murs des prisons, mais le personnel pénitentiaire entre et sort sans être dépisté. Et puis la surpopulation carcérale ne permet pas non plus aux détenus de respecter la distance de prévention sanitaire de 1 mètre entre chaque personne. Donc au final, fin mai, on comptait 101 personnes détenues testées positives à la Covid-19 et 103 autres confinées suite à l'apparition de symptômes. Des mesures sanitaires ont été prises, mais trop tard, et puis beaucoup trop légère. Et donc cette plainte a pour objectif de montrer que les décisions des autorités pénitentiaires ont constitué une menace pour la santé mentale et physique de 72 422 personnes détenues. Pour soutenir cette procédure, le Génépillion a lancé une cagnotte. Les fonds qui seront rassemblés serviront à soutenir les plaignants et plaignantes pour qu'un maximum de détenus puissent se constituer en partie civile dans cette action. Ce qu'on rappelle, la vie en prison est plus chère qu'à l'extérieur, alors que les salaires et les aides sont moins élevés. Et les prisonniers et prisonnières n'ont pas bénéficié de mesures de chômage partiel ou de revenus de remplacement pendant le confinement. Dans cette action commune, le coût des frais de procédure est dégressif en fonction du nombre de plaignants. Ça veut dire que plus il y a de personnes qui participeront, moins les frais seront chers par personne. Ça peut varier entre 140 et 600 euros par individu. Et l'argent récolté sera redistribué aux différents plaignants en priorisant les personnes les moins riches. Et donc si vous voulez y participer, la cagnotte est hébergée par la plateforme HelloAsso et le lien pour y participer, c'est sur le blog de La Petite Cuillère. Blog avec un s.radiocanu.org/petite-cuillère en un seul mot.
Maintenant, je vais vous lire une lettre ouverte au président de la République qui a été écrite le 3 juin 2020, donc hier, et qui a été signée par plein de gens, plein de collectifs, dont la présidente du syndicat des avocats de France, le président de AIDS, le président de l'OIP. C'est quelques exemples parmi plein. Et où du coup il parle dedans de la surpopulation carcérale. Monsieur le Président, pour la première fois depuis près de 20 ans, il y a en France moins de prisonniers-prisonnières que de places de prison. Conséquence d'une crise sanitaire sans précédent. Ce qui était hier impossible est devenu réalité. En 2 mois, le nombre de personnes détenues a été réduit de plus de 13 500. Cette situation fait naître un fol espoir. Car si elle résulte de circonstances exceptionnelles, elle impose une évidence incontestable. Réduire la population carcérale, prendre en charge en milieu libre ceux qui peuvent l'être ou doivent l'être, n'est ni déraisonnable ni dangereux. C'est au contraire une mesure de salut public. Ces 20 dernières années, la France a connu une inflation carcérale continue qui a contraint les personnes détenues à vivre dans la promiscuité et l'indignité et a condamné l'institution pénitentiaire à une quête vaine pour donner du sens à une peine de prison, avant tout synonyme de désolation, désocialisation et déshumanisation. La baisse inédite que nous venons de connaître nous rappelle qu'une autre voie est possible, que la volonté politique alliée à la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la justice permet de remettre ou de maintenir en liberté des milliers de personnes sans que cela ne représente un danger en termes de sécurité. Monsieur le Président, nous appelons à ce que cet espoir ne soit pas tué dans l'œuf. Il est essentiel de tout mettre en œuvre pour que la population carcérale ne reparte pas à la hausse dès la menace immédiate écartée. Le 30 janvier dernier, la Cour européenne des droits de l'homme condamnait la France pour les conditions de détention indignes qui règnent dans ses prisons et surtout sommait le gouvernement de prendre des mesures en vue de la résorption définitive de la surpopulation carcérale. Avec l'expiration du délai d'appel, cette décision historique est devenue ce 30 mai définitive. La crise que nous traversons amène chacun à faire preuve de sa capacité à se réinventer. Nous demandons que dans le domaine des prisons comme dans tant d'autres, les enseignements soient tirés. Qu'à la gestion de l'urgence succède une véritable politique de déflation carcérale, à même de garantir l'encellulement individuel et des conditions de détention dignes, et de favoriser la prise en charge en milieu libre de ceux et celles qui peuvent ou doivent l'être. Nous attendons de la France qu'elle ne soit plus pointée du doigt par les instances européennes pour les traitements inhumains et dégradants qu'elle inflige aux prisonniers-prisonnières. En mars 2018, vous affirmiez « Je sais qu'une nation est jugée aussi au travers des prisons. Beaucoup ne voudraient plus les voir, considérant que c'est la part maudite d'une nation, mais nous serons regardés à l'aune de ce que nous ferons de cette part de nous-mêmes. Le moment est venu, l'occasion est là, ne la manquez pas. »
Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Canu à écouter La Petite Cuillère, l'émission contre toutes les prisons, chaque premier et troisième jeudi de chaque mois de 20h à 21h. Je vous rappelle les moyens pour nous contacter, diffuser des infos, nous laisser des messages ou des dédicaces ou demander à faire passer des musiques, que vous soyez dedans pour parler à dehors ou que vous soyez dehors et que vous cherchez à contacter des personnes à l'intérieur. Le répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser des messages, c'est au 07 81 35 93 71. pouvez nous envoyer un mail à lapetitecuillère@riseup.net ou encore nous envoyer une lettre à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandan, 69001, Lyon.
Et maintenant, on va parler des CRA. Je vais vous lire le communiqué des prisonniers et prisonnières de Ménil-Amelot, qui date du 1er juin 2020. C'est parce qu'au CRA de Ménil-Amelot, ils se sont à nouveau mis en grève de la faim, au bâtiment 9, 10 et 11. Et ça, c'est à partir de vendredi et pendant 2 jours. Et du coup, dedans, elle raconte les violences, les humiliations, les refus de soins de la PAF, mais aussi les solidarités entre les prisonniers et prisonnières. Alors, nous sommes les prisonniers du centre de rétention Ménil-Amelot. Hommes, femmes, tous les bâtiments, ici on est solidaires. Car on se sent vraiment en prison. Car ils nous traitent comme des chiens, ils nous parlent comme à des chiens. Car en France, ça n'existe pas la double peine, alors qu'ici, c'en est vraiment une deuxième peine. Car le centre, c'est pire que la prison, et qu'on préfère retourner en prison que de rester ici. Car ici, on mange pas bien, et que dans la nourriture, il y a des calmants. Car on dort le ventre vide parce qu'on ne peut pas sortir, même un morceau de pain de la cantine. Car ici, la nourriture, c'est l'entreprise GEPSA, G-E-P-S-A, qui a un long contrat avec le CRA et que même en prison, c'est pas GEPSA. Car chaque jour, on se fait fouiller les cellules. Chaque jour, on se fait agresser par les surveillants pour un morceau de pain de trop ou une carte oubliée. Car on en a marre de la saleté et des agressions des flics. Car on paye des avocats très chers pour rien. Car on demande à manger halal et ils nous servent du porc. Car ils agressent des personnes qui ont encore des traces sur le visage et sur le corps. Car on est coincé là alors qu'il n'y a pas d'avion. Car la police ne respecte pas la santé des personnes. L'une d'entre nous est tombée ce matin parce qu'elle n'avait pas reçu son traitement. Car on a porté plainte tous et toutes ensemble solidairement et qu'on n'a reçu aucune réponse, que personne ne nous écoute. Pour toutes ces raisons, on a fait plusieurs fois la grève de la faim ces dernières semaines mais sans solution. Ils nous disent... Même si on vous voit mourir devant nous, on va rien faire. On peut pas rester ici. Si c'est pour vivre comme ça, on veut la liberté. Et maintenant, je vais vous lire le témoignage d'un prisonnier qui est retenu à Lyon, au CRA de Lyon. Il est en France depuis 2 ans, c'est un jeune Tunisien. Et il est dans le CRA de Saint-Ex depuis le 15 avril. Et du coup, dans ce témoignage qui date un peu, il date d'il y a un mois, du 6 mai, il raconte le transfert de force de 15 musulmans de la zone jaune à orange le 27 avril. Il parle aussi de la grève de la faim qu'il y a eu en plein Ramadan, qui a été menée par 7 musulmans et qui mettait en cause les conditions d'enfermement dégradées avec des actes de torture au mitard. J'étais côté jaune et ils sont venus pour nous changer la cellule. Nous, on n'a pas accepté parce qu'on était dans la promenade, grande, et nous, on fait le Ramadan, on sort un peu dehors dans la promenade. On était, je pense, 15, et on n'a pas accepté, on a dit qu'on ne change pas. Et après est venu le renfort. On est rentrés tous dans une chambre. Et on a décidé que personne sort de la chambre. Ils sont venus avec toute la police. Ils sont venus avec des bombes à gaz, des matraques, boucliers. En fait, ils ont gazé tout le monde. Tout le monde est tombé. Il y avait quelqu'un qui était asthmatique avec nous. Il était trop mal. Après, ils nous ont sortis un par un et nous ont emmenés dans l'autre zone, orange. Le monsieur asthmatique a passé 2 jours dans le mythe. Ils ont frappé dans la tête. Ils ont frappé partout. Ils ont frappé un autre aussi, marocain. Il a rien fait, il a parlé en arabe, ils s'en sont pris direct. Cette journée-là, ils ont dormi 2 personnes dans le mitard. Le mitard, ça veut dire tu vois une cellule tout seul, il n'y a rien. Ils te laissent tout seul dans le mitard, dans le noir, et les mains attachées derrière. Ils te mettent un masque pour que tu ne te frappes pas la tête, pour que tu ne te suicides pas. En fait, tu ne bouges pas, tu dors comme ça, tu te débrouilles. Et genre, quand tu te réveilles, tu bouges mal, les menottes, elles serrent. Après, ils te tirent que pour manger. C'est ça le mitard, c'est trop chaud. En fait, ils ont fait ça pour 2 personnes. Je sais pas pourquoi, mais ils ont fait ça exprès. Il a frappé, et même là, il a encore mal dans sa tête parce qu'ils ont frappé avec la matraque. Celui-là qui est parti au mitard, l'asthmatique, il a 2 enfants, français. Sa femme, elle est française, il travaille, il a un CDI. Il n'a pas mangé le 27 au soir, et même le 28 au soir, il n'a pas mangé. Si je vois dans les caméras le policier pousser le manger avec son pied, je ne mange pas moi-même. Si j'étais à sa place, je ne mangerais pas. Le 29, il n'a pas fait le ramadan. Le 29, il n'y arrive pas. Comme il est venu ici avec les nerfs et tout, il a fumé. Tu vois, tu casses le ramadan, tu casses plein de trucs, tu casses ta vie. Je sais, ils ont cru que c'était lui le problème, que c'est lui qui a monté la tête des gens pour résister au transfert. Mais en gros, lui, il a rien fait. Chaque personne parle de lui, comme la grève de la faim. En vrai, il a pas dit « vas-y, on fait tous la grève de la faim ». En vrai, les Albanais, c'est eux qui ont commencé à faire la grève. Ils ont fait 3 jours de grève et il y en a plein qui ont été libérés. Jusqu'à ce que nous, on pète les plombs, on a tous crié « libération, libération, libération ». Parce qu'on entend dans le poste quand il libère quelqu'un. Après, quand nous on a vu ça, chaque personne a décidé pour lui-même de faire la grève. Moi j'ai fait la grève comme les autres. Quand on a commencé la grève, on était 7. Tous ceux qui étaient encore là le 27 avril, tous on a fait la grève. On est restés 7. Après 3 jours, il y a un policier qui est venu le soir, il a dit que « ça fait 13 ans que je travaille ici, vous faites n'importe quoi, j'ai jamais entendu personne qui fait la grève et qui le libère ». Après, d'un côté, c'est un arabe. Il a parlé avec nous en arabe. On l'a écouté et après, on a mangé. Les débuts du ramadan, ça va, c'était bien. Quand on était dans le côté jaune. Maintenant, on est là, on a de la bouffe d'il y a 2 jours, 3 jours. Des fois, la bouffe, aujourd'hui, se périme et aujourd'hui, on mange. T'es tout le temps à respirer la bouffe. Le manger périmé, c'est n'importe quoi. Après, même dehors, on n'a jamais mangé ça. Quand on a fait la grève, le policier est venu. « Ouais, je vais manger votre manger, il est trop bon. » Zarma pour nous foutre la rage. Et il y a des policiers, on dirait c'est des gamins. La promenade, c'est trop petit. En haut, c'est fermé. Tu vois une cage des oiseaux ? C'est comme une cage des oiseaux. Tu vois le ciel, mais il y a la cage. C'est fermé partout. Il n'y a qu'un couloir. Dans l'autre zone jaune, non. T'as les gens dans les chambres. Quand tu sors dehors, t'as une grande promenade. T'as une place où tu restes s'il pleut. Et s'il y a du soleil, il y a plein de chaises. Là où on est, il n'y a pas de chaises. Faut que tu restes asseoir par terre. Là, ils ont ramené des gens, ils n'ont même pas fait de test contre le Covid. Les gens, ils les ont ramenés de prison hier, avant-hier. C'est trop, c'est pas protégé. On n'a jamais vu de protection. Jamais de gants, jamais de masque, jamais de gel. La première fois qu'on a été côté jaune, celui qui est asthmatique, comme il est venu, il a ramené du gel de chez lui. On servait tous du gel de chez lui. Maintenant, on est 9. La lumière du couloir, ça s'éteint pas, c'est trop fort. Il n'y a pas de porte, ça t'empêche de dormir. Dans la zone jaune, il y avait toutes les portes. Et quand on ferme la porte, c'est tout noir, au moins t'arrives à dormir. S'il n'y a pas de porte, ça reste tout sale. Avec la porte, c'est un peu plus propre. Même nous, on nettoie tous les jours. Si tu viens voir les chambres, tu verras la différence entre les chambres où on est et les autres chambres, qui sont ouvertes, c'est pas pareil. Je dors tard, je mange le soir, je dors vers 2h, 3h. Le matin, 9h30, 10h, ils nous font sortir pour nettoyer les chambres, ils disent. En gros, ils ferment les chambres et nous, on finit de dormir dehors. On ramène nos matelas, on dort par terre et c'est sale. Maintenant, je suis dans la chambre parce qu'ils ont ouvert à 13h, comme ça. Comme j'ai rentré dans la chambre, j'ai pas le droit de changer mon drap. J'ai le droit de changer rien. Ils m'ont dit « faut que tu te réveilles à 8h30 ». Maintenant, je vais prendre ma douche, mais j'ai pas de serviette. Ils disent « il faut te lever à 8h30 ». Mais j'ai pas de téléphone, j'ai pas de truc pour mettre un réveil. J'arrive pas à me réveiller à 8h30. J'ai pas de serviette, pas de savon, rien. C'est pour ça, c'est n'importe quoi. Et tu prends pas la douche dans ta chambre, tu prends la douche dans une autre chambre à côté, pour que tu salisses pas ta chambre, pour qu'il n'y ait pas d'eau par terre. Dans ces autres chambres, l'eau, elle coule au milieu de la chambre. Moi, je veux que ma liberté, c'est tout.
Attendez de recevoir sur la même longueur d'onde l'antenne Algérie française.
Radio France, la voix de l'Algérie française.
La révolution meurt au Alger.
Les préfets de police d'Oran et d'Alger viennent interdire à leurs administrés de stationner ou de circuler sur les terrasses et les balcons des immeubles.
Ce mot général de Gaulle était un obstacle indiscutable sur la voie du redressement français.
Par conséquent, l'armée peut se dire qu'elle a tout de même rendu au vieux pays une certaine stabilité, une certaine autorité qui lui manquait peut-être depuis un certain nombre d'années.
Je retiens quelques belles figures.
figures, en particulier le général Salan.
Après en Indochine, quand ça n'allait pas, on m'a fait venir. En Algérie, où la situation devient difficile, on me demande de revenir. Je ne suis pas gaulliste, je ne l'ai jamais été.
Vous avez participé à des actes de torture?
Non.
Mais vous avez participé à des exécutions sommaires?
Oui.
Vous avez exécuté combien de gens?
Je suis essentiellement un officier colonial et pour beaucoup, l'aspect qu'il faut représenter les gens.
J'en ai exécuté 24.
Une lettre d'Henri Allègue, figure capitale de la guerre d'Algérie en tant que directeur d'Alger républicain et militant communiste.
Vous avez des remords?
Non.
Il est enlevé par l'armée française le 12 juin 1957 et torturé avant d'être interné dans le camp de Lodi.
Alors, c'était évidemment assez difficile à l'époque de dire que l'Algérie avait droit à son indépendance. C'était même poursuivi, il y avait un décret, plutôt un article spécial du code, l'article 80, qui permettait de condamner les gens qui avaient de telles idées.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. J'ai été arrêté à Alger le mercredi 12 juin par les paras de la 10e DP. On m'a introduit immédiatement dans un bureau situé au 3e ou 4e étage. Un autre officier que j'appellerai dans la suite de ce récit, le 2e lieutenant, s'y trouvait déjà. Le lieutenant C me demanda de lui dire quels étaient les noms et les adresses des personnes qui m'avaient hébergé, avec qui j'étais en rapport, et enfin quelles avaient été mes activités depuis le moment où j'avais quitté mon domicile.
On est tous solidaires face à la merde, à la galère, sortir la tête de la misère pour que les gens nous considèrent en tant que citoyens, non en tant que chiens. La France nous ronge un point de ne plus avoir confiance.
J'indiquais que, directeur d'Alger républicain, j'avais continué à m'occuper de la défense de mon journal, illégalement interdit depuis septembre 1955, que tous mes efforts avaient tendu à éclairer l'opinion publique sur la nécessité d'une presse libre en Algérie, et plus particulièrement de la reparution d'Alger républicain, condition indispensable, selon moi, pour la recherche d'une solution pacifique. Quant à me faire le dénonciateur des personnes qui m'avaient hébergé ou que je pouvais avoir rencontré, je m'y refusais absolument.
Où ils sont passés, faut faire en somme que ça change, que les frères cessent d'être chassés.
Je ne considère pas que ce procédé, vous savez, soit, malgré le mot affreux qui quand on le qualifie, soit plus inhumain que de balancer des bombes sur les populations.
À l'étage inférieur, on me fit pénétrer dans une pièce qui doit normalement servir de cuisine. On m'ordonna aussitôt de me déshabiller et de me coucher sur une planche spéciale munie de deux extrémités de lanières de cuir. On m'attacha alors les poignets au-dessus de la tête et ensuite les chevilles avec ce système de lanières. Une demi-heure après environ, le lieutenant C entrait dans la pièce et me demandait si j'avais réfléchi.
De toute façon, s'il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison.
C'est un procédé nouveau, non employé intérieurement, mais souvent qui se résume à peu de choses et qui laissait beaucoup moins de traces sur les individus qu'une balle dans le cœur ou.
Et de voir du pays, émeute qui explose. Ça commence par interpellation, suivi de coup de bâton, puis ça se finit par incarcération.
Comme je répondais que je n'avais pas changé d'opinion et que je protestais contre des procédés aussi odieux, on me répondit par une bordée d'insultes. Et d'obscénité, et la séance commença. On me transporta d'abord dans une pièce plus grande.
Tu connais cet appareil, t'en as entendu parler, hein?
Me dit le lieutenant C en me montrant une magnéto. Immédiatement, un para assis sur ma poitrine me brancha une électrode sur le lobe de l'oreille droite et l'autre au doigt, et les décharges électriques se succédèrent. Pour m'empêcher de crier, le para assis sur ma poitrine enfonça ma chemise roulée en boule dans ma bouche en guise de baillon. Pendant ce temps, deux autres resserraient les lanières aux pieds et aux mains.
Bon, elle ne me fait pas plaisir, mais encore une fois, je suis un soldat, hein, et la guerre qui m'est imposée dans les circonstances m'oblige à avoir recours à ce procédé.
Après qu'ils m'eurent successivement aspergé pour que ça donne mieux, puis accroché les pinces électriques sur les doigts, le ventre, la gorge, les parties sexuelles, ils me détachèrent et me firent relever à coups de gifles et de pieds. On me fit me rhabiller à moitié. Le deuxième lieutenant me fit alors mettre à genoux et, attachant une cravate autour du cou comme une corde, se mit à me secouer, à me serrer, à m'étrangler, cependant qu'il me frappait au visage de toutes ses forces. Absolument fou de rage, il me hurlait dans la figure.
« Tu vas parler, salaud, tu es foutu, tu es un mort en sursis. Tu as fait des articles sur les exactions et les tortures, et bien maintenant c'est sur toi que la 10e DP les commet. Et ce qu'on fait ici, on va le faire en France. Ce qu'on te fait, on le fera à ton Mitterrand et à ton Duclos. »
Continuant à me frapper, il criait.
« Ici c'est la Gestapo. Tu sais ce que c'est que la Gestapo? Tu vas disparaître. Personne ne sait que tu es arrêté. Tu vas crever ta putain de République. On la foutra en l'air aussi. »
Puis, à nouveau, toujours à coups de gifle et à coups de pied, on me ramena sur la planche. «
Journée de manifestations souvent sanglantes en Algérie, plusieurs dizaines de morts. En Algérie, où la FLN avait voulu organiser une journée de protestation sous forme de grève contre la partition.
À nouveau déshabillé, je subis encore le supplice de l'électricité. Les pinces branchées sur le sexe, la gorge, la poitrine.
Tu ne sais pas nager, dit elle. On va t'apprendre.
M'entourant la tête d'un chiffon, ils me plantèrent un taquet de bois entre les mâchoires. Puis, portant la planche jusqu'à l'évier de la cuisine, ils me maintinrent la tête sous le robinet auquel était fixé un tuyau de caoutchouc. À trois reprises, ils m'amenèrent au bord de l'asphyxie complète, me retirant in extremis pour que je puisse reprendre haleine. À chaque passage, capitaine, lieutenant et para me martelaient le ventre à coups de poing assénés de toute leur force pour me faire rejeter l'eau absorbée. Au quatrième passage, je m'évanouis et je ne repris connaissance qu'allongé sur le ciment.
Condamné, Christophe Mathieu, Mohamed Diable, le petit Thibault sont tombés sous les balles, les porcs qui ont tiré sont bien en chaud. Et nous, on nous reproche de semer la panique, atteinte à la sûreté de l'État quand Racking succède.
Les séances reprirent avec des interruptions de récupération jusqu'au vendredi. J'étais trop épuisé pour crier ou me débattre et c'est cela sans doute qui fit juger mes liens suffisants. Je ne fus donc plus attaché sur la planche. Je ne saurais dire combien de nouvelles séances de torture j'endurais exactement, mais la plus longue eut lieu l'après-midi du jeudi, avec une courte interruption vers le soir, puis reprise jusqu'à tard dans la nuit. J'étais toujours étendu sur le ciment, les poignets sciés par les cordelettes, constamment branchés même entre deux séances.
Nous ne voulons pas atteindre la masse de la population. Nous ne voulons pas la frapper. Nous voulons même l'épargner, au risque, le cas échéant, de perdre certains atouts dans la recherche des coupables.
Il faut lui foutre dans la bouche, dit le deuxième lieutenant. M'ouvrant la bouche de force, ils m'enfoncèrent un fil dénudé jusqu'à la gorge. Sous les décharges électriques, mes mâchoires étaient crispées et comme soudées entre elles. Je sentais ma tête comme traversée d'étincelles et d'images de feu. Je croyais sentir mes yeux jaillir de leurs orbites. Sous la douleur, je me frappais la tête de toutes mes forces contre le sol.
N'essaie pas de t'assommer, tu n'y arriveras pas.
De ses ombres qui s'enflamment, la jeunesse qui s'exarme entre l'accent et son ballon bien, et la tente qui s'exarme, et cette lignée qu'on a saignée, brûlée, fendue, pendue, et contre toute attente, toujours vivante, dans l'attente d'une hypothétique embellie, je peux faire payer ce pays, ceux qui ont péri ne sont pas
bons. Durant un mois, j'ai été illégalement détenu dans une cellule dans des conditions matérielles et morales ignobles. Toutes les nuits, j'entendais à travers la cloison hurler les hommes que l'on torturé sans interruption jusqu'au matin.
On part dans des taudis et puis le lendemain on revient t'en expulser. Étant plus jeune, j'ai eu la naïveté de croire que je pouvais vivre dans l'insouciance, dans cette douce France tout en étant noir. Devoir de mémoire oblige, mais l'une fige l'espoir.
Je porte donc plainte entre vos mains, monsieur le procureur, contre le capitaine D, les lieutenants C et J, le para L et tous les autres, dont le deuxième lieutenant, que l'information pourra révéler pour torture, séquestration arbitraire, menace de mort.
Leur doctrine arienne, une époque pas si lointaine. Pour ne pas dire contemporaine, ils veulent notre indulgence, mais l'indigence des indigènes voit des peines. Hier c'était leur joie, le
peine. Les bourreaux gaullistes prétendent spolier des citoyens français de leur droit de respirer.
Je n'ai procédé de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme.
Des milliers d'Algériens, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'Algériens, étaient passés par là où je suis passé, et même avant que l'insurrection ne se déclenche. Ouais. C'était une chose très commune.
C'était la petite cuillère. Comme chaque premier et troisième jeudi de chaque mois, vous pouvez nous retrouver en podcast sur notre blog, La Petite Cuillère. Sur le blog Radio Canu. Et puis, on se retrouve en direct dans deux semaines. Et maintenant, c'est Dance Maniac.